Le goût, c'est naturel et culturel.
Acide, salé,
amer,
sucré,
ça pique,
fumé,
gras,
pétillant,
umami.
Le goût n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête.
Là, je suis sur le citrique. Faut imaginer que l'acidité, c'est comme un zeste de citron sur une asperge ou sur des fraises. Si vous mettez pas ce zeste de citron, eh bien, vous perdez beaucoup. Vous endormissez absolument tout votre plat.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Saveurs Savantes, la série savoureuse et salivante qui perce les secrets du goût en 9 épisodes. Épisode 1.
Acide.
L'acidité, voilà une saveur ambivalente qu'on aborde ou qu'on adore. Certaines acidités électrocutent vos papilles, elles vous décapent les gencives. Les autres, au contraire, apportent de la vivacité dans un plat. Question d'équilibre. L'acidité du citron est-elle la même que celle du vinaigre, de l'oseille ou du vin blanc? Produit-elle les mêmes effets sur nos organes gustatifs et notre cerveau? Et quel rôle joue cette acidité dans la balance des saveurs? On pose ces énigmes du goût sur la table avec l'un des scientifiques qui nous accompagne sur cette série, Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur et fondateur de l'École du Nez. C'est un grand spécialiste des perceptions sensorielles. L'acidité, j'irai aussi la chercher au fond de la tasse avec un torréfacteur qui pourrait bien changer votre vision du café. L'acidité aussi en dessert, et je me rue sur la rhubarbe, ce délicieux bâton acidulé auquel une productrice d'Île-de-France consacre sa vie. Et puis l'acidité enfin dans la langue française avec notre linguiste Aurore Vincenti qui nous accompagne dans tous les épisodes de cette série. La recette de saveurs savantes, un tiers de cuisine, un tiers de science, un tiers de culture. On mélange bien dans un shaker avec des extraits de films, des morceaux de littérature, des mots et des expressions du dico. Et on obtient un cocktail de savoir et de saveurs. Je vous le sers bien frais pendant tout l'été. On commence avec un atelier dégustation, car en matière de goût, la vérité sort souvent de la bouche des enfants.
Saveurs savantes. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Vous allez mettre vos bandeaux et avec une cuillère, je vais vous faire goûter quelque chose, mais vous allez d'abord sentir. Donc je vais mettre la cuillère sous votre nez et vous allez me dire déjà si ça vous dit quelque chose.
C'est un peu comme une odeur de vin blanc.
Ah, je sens qu'est-ce que c'est.
Qu'est-ce que ça sent?
Le vinaigre.
Et quand on respire fort, à la fin ça picote un peu dans le nez.
On va goûter?
D'accord.
Vous ouvrez la bouche.
Et ça pique.
Pourquoi vous toussez?
Quand on avale, ça agresse la gorge. Ça gratte.
C'est acide.
Ça te plaît?
Pas trop.
Ça gratte, ça pique, c'est pas agréable.
C'est pas agréable?
Non.
Moi, c'est comme si ça brûlait à l'intérieur de mon estomac.
Bah moi, je ressens l'acidité quand j'avale. Et c'est un peu pareil que du citron quand on avale. Ça brûle un peu la gorge. Donc je dirais que c'est acide.
Très bien. C'était du vinaigre de pomme. Mais c'était acide. Vous avez parfaitement raison.
Acide.
Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur.
Pour percevoir une saveur comme l'acidité... Où est-ce, comment ça se passe? Ça se passe au niveau de ces petits points rouges qui se trouvent à la surface de la langue, qui s'appellent les papilles. On a des petites papilles qui sont des petits points rouges qu'on trouve à l'avant de la langue.
On en a combien à peu près?
On a entre 2000 et 10 000, c'est assez variable entre certaines personnes. Il y a des petites papilles qui sont rouges, et puis si vous tirez bien la langue, vous avez des grosses papilles très joufflues qui sont à l'arrière de la langue, comme une barrière, qu'on appelle des papilles calciformes. Chaque papille est en fait un regroupement de plusieurs bourgeons du goût. Un bourgeon du goût, c'est un mot qui signifie en fait une structure anatomique qui ressemble un peu à un bourgeon de rose, où chaque pétale, chaque sépale serait une cellule qui est capable de détecter une des cinq saveurs fondamentales. Donc dans ces bourgeons, on retrouve une cellule pour l'acidité, une cellule pour l'amer, une cellule pour le salé, une pour le sucré, une pour le umami. Et ces bourgeons, ces cellules sont exposées à de la salive. Donc c'est important de comprendre que la salive, c'est le moyen de diffusion des aliments pour entrer en contact avec ces cellules. Ces cellules, elles se renouvellent tout le temps parce qu'elles sont agressées par l'acide qui peut être très corrosif, mais pas aussi par des aliments qui peuvent être anguleux, tranchants, qui peuvent abîmer notre muqueuse. Et heureusement pour nous, notre muqueuse de la langue se renouvelle tous les 15 à 20 jours. Si on s'est brûlé avec une boisson chaude, pas de panique. Le bout de la langue ici va repousser et en 15-20 jours, on redevient opérationnel. Et Au niveau de ces bourgeons gustatifs et de ces cellules gustatives qui peuplent ces bourgeons, si on fait un zoom au niveau du sommet, de ce sommet de ces cellules qui est en contact avec la salive, on va retrouver ce qu'on appelle nos récepteurs gustatifs. Les cellules de l'acide, par exemple, portent un récepteur, c'est-à-dire une espèce de petite serrure qui va attendre la présence d'une clé spécifique qui va activer cette serrure et déclencher une activation de la cellule. Et chaque type de saveur porte un type de récepteur particulier. L'acide a un récepteur, le sucré a un récepteur, l'umami a son récepteur, et puis exception, l'amertume a 25 récepteurs différents. Une fois qu'une cellule gustative détecte cette clé complémentaire, la cellule s'active, va transmettre un message électrique qui va aller directement dans notre cerveau, et le cerveau va finalement intégrer cette information gustative qui n'est pas née toute seule. Dans la bouche, il apparaît des sensations gustatives, certes, mais aussi des dimensions tactiles, le côté irritant de l'acide, le côté croquant, la salivation qu'on va avoir. Et puis en bouche, l'aliment a peut-être généré des molécules volatiles qui vont passer à l'arrière de la bouche, ce qu'on appelle la rétro-olfaction, la rétro-nasale, qui complète ce qu'on a vu du plat, ce qu'on a pu sentir avec notre nez. Donc finalement, la dégustation, même si ça nous paraît simple, c'est un acte qui est extrêmement complexe, parce que très riche en informations sensorielles. Pour le cerveau, déguster un plat, c'est un vrai feu d'artifice d'information sur des canaux sensoriels différents qui va devoir s'intégrer, synthétiser, hiérarchiser. Et finalement, le goût, il n'est pas vraiment dans l'assiette, il est dans la tête.
On s'en met plein la langue et plein les oreilles avec ceux qui ont osé tirer la langue la plus célèbre du monde, les Rolling Stones, Painted Black.
Régis Gaudry.
L'acide, c'est une saveur universelle et familière, mais c'est aussi une saveur qui est assez complexe et ambivalente. Parce qu'à faible concentration, on apprécie l'acide, on apprécie son côté vivifiant et rafraîchissant, et à forte concentration, elle devient déplaisante, repoussante, parce qu'elle a ce côté corrosif, agressif pour nos muqueuses, bien sûr. Donc c'est une de nos cinq saveurs fondamentales, avec sucré, salé, amer ou umami, qui permet la perception de molécules chimiques qui sont solubles dans l'eau. Et dans notre cas, c'est la présence d'ions hydrogènes qui sont libérés par des ingrédients de notre aliment, parmi lesquels sont les acides organiques. Pour mesurer cette libération d'ions hydrogènes, on utilise une échelle, l'échelle du pH pour potentiel hydrogène, qui mesure le niveau d'acidité d'une solution. Ça va de 0 à 14. À pH 7, une solution est neutre, c'est le pH de l'eau, c'est le pH de notre salive. Et puis, plus l'acidité augmente, plus le pH diminue. Une tomate, par exemple, pH 4,5. Une pomme, pH 3,5. Un vin blanc, pH 3. Le citron, pH 2. Citron vert, pH 1,5. Et là, on commence à faire une petite grimace, parce qu'on ressent bien que l'acidité à forte concentration, ça nous fait tirer une grimace.
Quels sont les aliments, les ingrédients ou les familles d'aliments qui se caractérisent par une forte acidité ?
Il y a deux sources principales dans notre alimentation. La première, c'est les plantes qui vont produire, stocker ces acides organiques, et notamment dans certaines parties de la plante, comme les fruits. Et on parle d'acide citrique, d'ailleurs du citron, parce que le citron stocke beaucoup d'acide citrique. D'acide malique, parce qu'on en trouve, initialement on en trouvait beaucoup dans la pomme, on en trouve dans la pomme et dans d'autres fruits. L'acide tartrique, qui est caractéristique du raisin. L'acide oxalique, caractéristique de la rhubarbe ou de l'oseille, de cette famille de plantes. Et puis, notons aussi l'acide ascorbique, par exemple, qui est la fameuse vitamine C, qu'on trouve aussi dans beaucoup de plantes. Et là, il y a une autre source d'acidité qui est importante dans l'alimentation, à côté des plantes, c'est celle qui est produite au cours de la fermentation. C'est l'acide lactique qui est produit par certaines bactéries, dans le yaourt, par exemple, l'acide acétique dans le vinaigre, qui est issu de la dégradation de l'alcool. Ces produits sont des déchets qui sont produits par les bactéries. Un caractère important de l'acidité, c'est que l'acide bloque à une certaine concentration la croissance bactérienne. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour empêcher, pour conserver des aliments, pour empêcher que des bactéries, comme des salmonelles par exemple, viendraient polluer un peu notre alimentation et la rendre non consommable. C'est pour ça qu'on retrouve l'utilisation de l'acide à plein de niveaux, dans plein de cultures, comme conservateur de l'alimentation.
L'acide, je suis allé le traquer dans une boisson davantage réputée pour être amère. Aux portes de Paris, à Saint-Mandé, Hippolyte Courty, le fondateur de l'Arbre à Café, façonne ce qu'il appelle des cafés fraîchement torréfiés. Des cafés qui sont riches de leur acidité.
Bonjour.
C'est là. La maison est bien gardée entre les poules et le chien.
Ah oui, on est presque à la campagne en fait, alors qu'on n'est qu'aux portes de Paris en fait.
On est presque à la campagne à 100 mètres du périphérique, oui. On voulait une ferme et on a eu une ferme.
Et là, on est dans les nouveaux locaux de l'Arbre à Café.
On est dans les locaux, 600 mètres carrés, sous une verrière où on a réuni toutes les activités de l'Arbre à Café, à la fois la cave à café, la production, donc la torréfaction, la réception du public, et puis l'école du café.
Pour apprendre ce que c'est qu'un bon café ?
Voilà, apprendre à le faire pour justement goûter tous les jours, qu'on soit particulier ou professionnel, du bon café. Ah, ça c'est la prod qui est toujours en musique. Parce que le café c'est le rythme, évidemment.
Et pas n'importe quelle musique pour travailler le café ?
Non, mais on a la chance d'avoir Louis qui est du Salvador. Et donc le matin, c'est le moment nostalgie autour du café. Donc ça, c'est la cave à café.
Je suis ici, Hippolyte, pour essayer de percer un peu l'aromatique du café et toutes les idées reçues qu'on a. On dit que le café est davantage porté sur l'amertume. Là où toi, t'essayes de rectifier justement un peu cette réalité.
Oui, le goût, c'est une combinaison, en fait. Il n'y a pas soit de l'amertume, soit du salé, soit du sucré, soit de l'acidité. Donc effectivement, l'un des marqueurs majeurs de la qualité du café, c'est l'acidité, qui chez nous, comme par miracle, se transforme en fraîcheur et en colonne vertébrale. Mais l'acidité, c'est vraiment fondamental. Vous avez deux types d'acides dans le café, grosso modo les acides chlorogéniques et quiniques. Vous savez, la quinine qu'on aime dans certains sodas, etc., qui est acide et amer. Et puis, vous avez les acides organiques qui sont complexes. Dans le café, il y en a plus de 10, l'acide malique, acétique, tartrique, citrique, etc., et qui font cette richesse, cette explosivité, parce qu'il y en a qui sont frais, il y en a qui sont doux, il y en a qui sont ronds, etc., comme l'acide malique. Et donc, si on choisit une variété, effectivement, qui a beaucoup d'acides chlorogéniques, comme le Robusta, ben effectivement, on va avoir, dès le début, de l'amertume. Parce que ce sont des acidités qui sont amères.
Une acidité peut être amère ?
Une acidité peut être amère. On a un pamplemousse ici. C'est pour ça qu'on aime le pamplemousse et le jus de pamplemousse. Alors, dans le processus de plantation, il y a le terroir et il y a l'altitude qui est un élément majeur qu'on va goûter justement tout de suite entre un café d'Inde et du Brésil et puis des cafés d'autres altitudes. L'altitude, c'est quoi ? C'est la température pour nous. Plus vous allez avoir une température qui va être basse, et donc une maturation des fruits qui va être très longue. Et ça, on le sait bien, dans le vin, on sait bien, dans tout, c'est pas ceux qui poussent le plus vite qui sont les meilleurs, et c'est pareil donc dans le café.
coup, on va aller chercher justement les cafés d'altitude pour avoir une richesse en termes d'acide, une diversité et une intensité qui va être importante. Donc, si vous prenez un Robusta de basse altitude, ce qui est la norme, eh bien, vous n'aurez ni cette complexité ou cette richesse d'acidité, ni justement de la belle acidité, mais plutôt de l'amertume. Et donc, je suis rentré dans le café que le jour où j'ai enfin découvert un café d'altitude bien fait, qui n'avait plus ses amertumes.
Et combiné avec ce que tu appelles la fraîcheur.
Alors, et combiné avec ce que j'appelle effectivement, nous, la fraîcheur, à l'arbre à café, mais dans le monde qui s'appelle effectivement l'acidité ou les acidités.
Démonstration ? Il y a des fioles sur cette table ?
Des fioles avec lesquelles nous, on s'entraîne, ce qui est un petit peu étonnant, c'est un petit peu comme le nez du café ou le nez du vin, mais nous, ça va être des fioles d'acide. Eh bien, on a voilà de l'acide citrique ici, de l'acide malique, de l'acide phosphorique, de l'acide acétique.
Comment tu les goûtes ?
Et on les goûte effectivement soit dans l'eau pure déminéralisée, soit effectivement dans des cafés. Et on regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut augmenter ou diminuer certaines notes justement acides. Si on prend par exemple les cafés du Panama, ils sont citriques, donc ils sont frais. Mais ils ont surtout une grande richesse. Et donc on doit être capable de déterminer 5, 6, 7 acidités différentes qui vont donner cette complexité et en faire des cafés extraordinaires. Si je vais au Kenya, on est beaucoup plus sur l'acide phosphorique. Si je vais, par exemple, en Inde, on est beaucoup plus sur l'acide malique.
Et s'il fallait faire des grandes différences entre ces familles d'acides, ça provoque des sensations différentes ?
Oui, ça provoque des sensations différentes et c'est ça qui nous intéresse. Celui qui aime le citron, bah, il va aimer cette acidité justement citrique et ce côté salin. Et qui va plutôt se placer sur le début de la bouche. Et donc, on sait que dans le café, bah, c'est quelque chose qu'on va retrouver justement en ouverture. Et qu'on va avoir cet effet de fraîcheur. Celui qui aime justement le pamplemousse, il va aimer une autre acidité avec ce côté amer. Donc, il y a à la fois la nature de l'acidité et la combinaison. L'orange, on va être sur de l'ascorbique. Vinaigre de pomme, et même la Granny Smith, que tout le monde adore, qui semble pas mûre tellement elle est verte, et tellement elle est acide, c'est justement l'acide malique. Et l'acétique, on est tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus aérien, qui donne un grand sentiment de fraîcheur, mais plus froid.
Là, on commence par quoi ?
Et là, on va commencer par quoi ? Par un café qu'on adore, qui est l'Odisha d'Inde. Et à l'opposé, on va aller au Volcan Barou, justement, dans un geisha de la Finca Deborah, où on aura effectivement une grande complexité.
On extrait ce qu'on appelle des espressos, en fait.
Là, on goûte en espresso, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux tasses sont à la même température, parce qu'évidemment, la perception de l'acidité dépend de la température.
Plus c'est chaud ?
Plus c'est chaud, plus on a l'impression que c'est acide. Plus c'est froid, et plus on a l'impression que c'est frais. Goûtons ensemble le Panama, tu vas voir que ça envoie un petit peu. On est à la fois sur de l'orange, de la mangue, de la grenade. Et ça travaille sur toute la bouche, du début à la fin. Ça monte, ça descend. C'est à la fois frais, à la fois un petit peu amer, mais riche, rond. Donc là, on sait qu'il y a de l'acide malique, on sait que justement il y a de l'acide tartrique, il y a de l'acide acétique, il y a de l'acide citrique à plein.
Il y a de la rondeur et en même temps, au début, ça pince un peu. Ça électrifie un peu.
Ça électrifie parce qu'on l'a servi effectivement assez rapidement. On veut mettre en valeur justement cette acidité. Alors donc là, on est sur l'Odisha, en Inde, super café, mais qu'on va chercher justement pour et apprécier pour son extrême douceur. Donc pour nous, c'est un grand café du matin, par exemple. Un bon café d'espresso aussi. Voilà, on redescend, on est sur quelque chose qui prend plus de place en bouche, qui est beaucoup moins dynamique, mais qui est suave, qui est doux.
Il y a quand même de la fraîcheur.
Il y a quand même de la fraîcheur, ça. Sinon, il ne serait pas chez nous. Il faut imaginer que l'acidité, c'est comme un zeste de citron sur une asperge ou sur des fraises. Si vous ne mettez pas ce zeste de citron, eh bien, vous perdez beaucoup. Vous endormissez absolument tout votre plat. Donc là, c'est pareil.
Le dîner de con, Francis Weber, 1998. Qu'est-ce que tu fais?
Je fous du vinaigre dans mon château Lafitte. C'est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette. Et voilà, le gros Lafitte qui tâche. Tiens, goûte.
Ah non, non, goûte toi-même.
C'est bizarre, ça lui donne du corps, je trouve.
Merde alors.
Il est pas plus mauvais? Ce serait même plutôt meilleur.
Nettement.
Ah oui, c'est bon à savoir, ça.
Saveur savante sur France Inter.
Gabriel Lépouzet, neurobiologiste et spécialiste de la perception sensorielle.
Goûter un acide, c'est apprendre à écouter son corps, comment il réagit face à un ingrédient. Apprendre à écouter sa salive, apprendre à savoir comment il réagit face à l'ingrédient. Et dans le cas d'un café qui va souvent terminer le repas, ben on a envie d'avoir un confort de bouche agréable à la fin. On a envie d'avoir quelque chose de rafraîchissant, pas de lourd, quelque chose qui nous permet de saliver tout en ayant des évocations aromatiques. Et c'est là que l'acidité du café prend toute sa valeur et toute son énergie.
Fraîcheur, acidité, est-ce que c'est correct, cette association d'idées?
Pour bien comprendre cette notion-là, il faut intégrer un paramètre qui est le paramètre de la salive. Dans notre bouche, notre salive, qui protège et occupe tout l'espace de notre muqueuse, c'est une salive qui a un pH qui est neutre. Et dès qu'on va avoir une solution qui est légèrement acide, ou très acide, le pH va changer. Et ce petit changement de pH indique au cerveau qu'il y a de l'eau qui arrive en bouche. Ce qui veut dire que l'acidité est utilisée par le cerveau pour lire la présence de l'eau en bouche, et c'est pour ça qu'elle a un caractère rafraîchissant.
Certes, un citron ou un jus de citron peut apporter cette fraîcheur en bouche, ou cette sensation de fraîcheur, mais la menthe le fait tout autant, et la menthe est tout sauf une plante acide.
Exactement. Derrière cette ambivalence se cache en fait le fait que le mot fraîcheur est ambigu. Le mot fraîcheur, il parle de la fraîcheur du froid, le froid qu'on est capable de sentir avec des capteurs qu'on a en bouche et dont on est capable de donner l'illusion avec la menthe, qui libère un composé qui s'appelle le menthol, qui active artificiellement le récepteur du froid, qui donne l'illusion du froid.
L'acidité est aussi considérée comme stimulante, tonique. Pourquoi l'apprécie-t-on autant?
J'y vois trois possibilités. Un, parce qu'elle est capable d'équilibrer les saveurs. Et l'acide, vraiment, a cette bonne capacité à équilibrer la saveur sucrée, équilibrer aussi la saveur salée, n'oublions pas. Ça renforce un peu la saveur amère et l'astringence, ça réduit la sensation de gras. Donc c'est une saveur qui est vraiment apte à être travaillée, cuisinée. La deuxième valeur de l'acidité, c'est sa capacité à stimuler la salivation. Et cette salive, on en a besoin, c'est celle qui protège notre bouche. Et donc chaque fois que je vais stimuler ma salivation, je vais créer du confort de bouche, je vais pouvoir rincer ma bouche face à une prise alimentaire qui est renouvelée. Et puis il y a une troisième hypothèse, c'est le caractère évolutif de l'acidité. Il s'avère, François-Régis, qu'on partage avec nos cousins, les singes et d'autres mammifères, notre impossibilité, notre incapacité à fabriquer de la vitamine C.
Oui, on en a besoin et on la trouve dans notre alimentation, et notamment les fruits et légumes.
Exactement, et c'est là où l'acidité devient un élément essentiel, puisque l'acidité qu'on est capable de percevoir en bouche devient un allié pour guider notre alimentation vers des sources d'acide organique, et en particulier de vitamine C, qu'on va retrouver en particulier justement dans les fruits. Et d'où cette association intime et profonde qu'on a dans notre esprit entre acidité, fruits, et ces notions fruitées et acides qui sont intimement liées certainement dans ce caractère évolutif.
De nombreuses recherches mondiales se sont intéressées au goût, et l'une d'entre elles a révélé des choses étonnantes sur nos perceptions gustatives. Connaissez-vous l'histoire de Kiki et Booba? Notre scientifique Gabriel Lépouzet nous la raconte.
L'histoire commence dans les années 30 avec des chercheurs anthropologues, linguistes, qui cherchent à comprendre les correspondances entre des formes et des sons et qui vont interroger des populations dans différentes cultures, au Japon, en Indonésie, en Namibie, en Europe, aux États-Unis, et qui observent que, quelle que soit la culture dans laquelle on vit, on est capable d'associer des mots à des formes. Et l'exercice était fait avec la forme suivante. On prend une forme un peu anguleuse, un peu comme une étoile. Et on demande aux gens, cette forme anguleuse, est-ce que tu penses qu'elle s'appelle plutôt Kiki ou qu'elle s'appelle plutôt Booba? Alors, ce qui est curieux, c'est que 90%, 95% des gens, quelle que soit leur culture, répondent, cette forme anguleuse, je pense qu'elle s'appelle plus Kiki. Et quand on prend une forme un peu plus ronde, un peu plus lisse et souple, qu'on pose la même question, les gens l'associent plutôt à au mot Booba. Derrière ça, en fait, se cachent des correspondances entre différentes modalités sensorielles, ce qu'on a appelé plus tard des formes de synesthésie. La synesthésie, c'est la capacité d'un élément sensoriel, d'une modalité sensorielle, à réveiller une autre modalité par notre cerveau. On pense à Rimbaud quand on entend ça, et sa capacité à voir des couleurs quand il entend des sons, mais il s'avère que cette capacité, elle préexiste chez tout le monde, elle est innée, et on voit qu'elle s'applique aussi à des correspondances entre les sens, y compris celui des saveurs. Exemple, on se pose la question, une forme anguleuse, elle vous évoque plutôt une dimension sucrée ou plutôt acide. La plupart des gens disent la forme anguleuse m'évoque plus l'acidité. Je l'associerais plus avec l'acidité.
Donc Kiki est un mot plutôt acide, Booba serait un mot plutôt sucré.
Tout à fait. Et on le voit même au niveau des odeurs. Si on demande aux gens de classer des odeurs en fonction de si elles sont plus kiki, plutôt anguleuses, ou plutôt booba, plutôt rondes et souples, ben on voit que les odeurs de citron, de poivre, évoquent plus cette forme anguleuse pointue, acérée, et le son kiki, alors que les odeurs de fruits mûrs, de fruits rouges, de vanille, des odeurs qui sont un peu sucrées finalement, ou associées au sucré, sont plutôt associées à booba et à des formes plutôt rondes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce trait qui a l'air d'être universel ? Il faut se replonger pour ça dans l'enfance. Et une des manières de répondre à ça, c'est de voir la tête que fait un bébé de quelques jours quand on lui soumet une boisson sucrée ou une boisson acide. Et ces expériences ont été faites il y a très longtemps et on peut quotidiennement les tester avec nos enfants. Un enfant qui boit une boisson acide, il fait une grimace qu'on a tous en tête. Il va serrer la bouche, serrer les dents. C'est un réflexe pour stimuler la salivation. Si on fait ça, si on serre ses dents et qu'on serre ses gencives, essayer de prononcer le mot booba en même temps de serrer les dents et serrer les gencives, c'est impossible. Le seul mot qui peut sortir, c'est le mot kiki.
C'est ça.
Alors qu'un bébé qui goûte une solution sucrée, qu'est-ce qu'elle fait ? Il fait un sourire.
Et il est aux anges.
Il est aux anges, c'est bon, c'est plaisir, c'est le confort.
Prononcer booba en serrant les dents, pas facile, facile. Il y a une spécialiste en revanche qui a une prononciation parfaite et qui a tous les mots du goût sur le bout de la langue. Elle nous les explique même puisque c'est son métier. C'est notre linguiste Aurore Vincenti.
Acide.
Quand on parle de sucré, salé, amer et aujourd'hui pour ce premier épisode acide, est-ce qu'on fait référence à un goût ou à une saveur ? Les deux mots ne se recouvrent pas parfaitement, ils ont chacun leur originalité. Alors on peut s'accorder sur une chose, dans le dictionnaire, au mot saveur, on trouve le mot goût, et au mot goût, on trouve le mot saveur. Mais le goût, en plus d'être une saveur, est un des sens de notre perception, comme l'odorat par exemple. Sauf que le petit plus de la saveur, c'est d'avoir l'intelligence du savoir. Et oui, saveur et savoir sont cousins. Ils ont la même racine, sapere, qui nous raconte que la connaissance et l'intelligence passent par le sens du goût, en tout cas étymologiquement, originellement. Donc le temple du savoir est en fait un palais. Et si je vous ouvre les portes de ce palais, vous atterrissez sur la langue. Alors la langue pour goûter, mais aussi pour décrire ce qui s'y passe. Et ce n'est pas une mince affaire de décrire une saveur. Je suis tombée récemment sur une parole d'un écrivain japonais nommé Kenichi Yoshida. Je le cite, « Le goût du canard, on ne peut le décrire qu'en disant qu'il a le goût du canard. » Alors, on peut tenter quelque chose. Pensez à un vin, par exemple. Si on vous demande quel goût il a, vous répondrez peut-être qu'il a des notes de cerise ou de cacao. Alors, on serait en droit de renchérir, mais quelle est la saveur de la cerise ou du cacao ? Et vous vous engageriez dans la spirale du remplacement d'un mot par un autre, d'un ingrédient par un autre, pour tâcher de décrire ce que vous avez en bouche. Peut-être, in fine, que c'est bien ce contre quoi on nous met en garde quand on nous recommande de ne pas parler à la bouche pleine. Heureusement, la langue française ne nous laisse pas totalement en reste. On a ces fameuses saveurs primaires dont on entend le nom dès qu'on est en âge de se voir porter cuillère en bouche. Et pour rentrer dans l'été, on aborde le sujet par la proue du navire, avec une saveur en pointe qui, quand elle apparaît en langue française au XVIe siècle, caractérise un fruit. Un fruit acide, donc. Le mot vient du latin acer, acer, qui signifie pointu, perçant. Vous reconnaîtrez peut-être la filiation qu'il entretient avec l'adjectif acéré, comme une arme qui pique et qui transperce, ou même acerbe, comme un ton qui tranche et qui blesse. Mais c'est pas tout, parce que cette racine latine acer, elle a été très productive dans le champ des saveurs et des sensations, puisqu'elle a donné les mots acre, agrume, griotte, mais aussi et surtout le mot aigre, qui soulève pour nous une question intéressante. Quelle différence fait-on entre le mot aigre et le mot acide ? Ils ont la même origine, parfois le même emploi, mais qu'est-ce qui les départage ? Au fil du temps, aigre s'est chargé de quantités de sens figurés et de connotations toutes peu ou prou péjoratives. Aigre, ce sera pour décrire une voix trop aiguë, une odeur âcre, des couleurs criardes même, jusqu'à un comportement détestable. Et pour cause, dans le langage courant, aigre a la valeur d'un superlatif et désigne donc ce qui est super acide. Et plus spécifiquement, une acidité qui n'est pas de naissance, si je puis dire, mais qui s'est développée, par exemple, en vieillissant, en fermentant. C'est le cas du vinaigre, qui est un vin devenu aigre avec le temps. C'est cette transformation qui justifie la coexistence de ces deux mots, qui ne disent pas tout à fait la même chose. En français, l'acidité est neutre ou plaisante. L'aigreur, en revanche, peine à se faire aimer tant elle est désagréable ou en tout cas perçue comme telle par un bon nombre de personnes. Il y a bien que dans quelques préparations culinaires que l'aigreur est valorisée. Personne n'a rien contre le vinaigre. Et d'ailleurs, parfois, pour éviter le mot aigre et ses connotations, on emploiera l'adjectif plus rare sûr, S-U-R avec un E à la fin au féminin. C'est du même endroit que vient l'anglais sour. Bon, je vous dis ça parce que moi, je suis une amatrice invétérée de whisky sour du fait de l'acidité conférée par le citron. Je me permets une petite parenthèse en vous donnant la recette incontournable, une dose de whisky, une dose de sucre, une dose de citron, un blanc d'œuf, un shaker. Moi, j'utilise un pot à confiture, ça fonctionne très bien. Voilà pour le whisky sour. Sour qui est donc lié à sûr. Et bouclons la boucle avec la surelle. Peut-être que vous reconnaîtrez là le nom régional donné à l'oseille avec une de ses variétés, la surette. Et oui, si l'acidité de l'oseille ne vous a pas échappé, vous ne savez peut-être pas que le mot oseille lui-même vient du latin acidula, acidulé. Et vous remarquerez que le mot acidulé vient tempérer, modérer l'acidité, et donc a une connotation presque encore plus positive qu'acide. Donc ce qu'on peut déjà constater grâce à la langue, c'est que plus c'est doux, plus le mot est positif. On a acidulé d'un côté, et plus la saveur est prononcée, plus le mot se charge de connotations négatives. On a aigre de l'autre. Vous verrez que la langue fait à cet égard, et quelle que soit la saveur, l'éloge de l'équilibre et de la modération.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix.
Avec le titre Tasousmi.
Saveur savante sur France Inter.
S'il y a bien une écrivaine française qui a écrit l'acide avec insistance, c'est Colette. Les cerises peu mûres, le verjus, les groseilles vertes dans son roman La retraite sentimentale, ou bien encore son chef-d'œuvre méconnu Flore et Pomone, publié en 1943. Colette vit à Nice pendant la guerre. Alors que tout vient à manquer, elle se remémore le plaisir charnel des oranges acides. C'est un texte interprété par Lou Lefebvre.
Quand nous avions des oranges, les nommer depuis qu'elles nous manquent, c'est assez pour susciter sur nos muqueuses sevrées la claire salive qui salue le citron frais coupé, l'oseille crue, la mordante pimprenelle. Mais notre besoin d'oranges dépasse la convoitise. Nous voudrions en outre voir des oranges. Nous pensons à ce reflet, cette lumière de rampe qui montait des poussettes chargées au visage penché dans la rue. Nous voudrions acheter 1 kilo, 2, 10 kilos d'oranges. Nous voudrions sous-peser, emporter ces branches coupées, porteuses de feuillages vernissés et de mandarines qui jalonnaient les étals du Cours Saléa à Nice, tout le long du marché aux fleurs. Nous avons une terrible envie de ces paniers ronds qui parfumaient notre chambre d'hôtel et que nous envoyions à nos amis parisiens. La marchande ajoutait, sous le couvercle, un bouquet de violettes et le brin de mimosa. Ces petits souvenirs-là, comme ils sont acides, irritants, leur vivacité d'évocation nous fait un peu lâches. Il y avait aussi ces minuscules mandarines du pays, renflées sur leur équateur et qui, sous l'ongle, répandaient par leurs pores une huile essentielle abondante. On me reprochera d'aborder, non sans sadisme, un sujet pénible. Je proteste que nous sommes entraînés depuis un bout de temps à regarder en face et fermement les biens dont la guerre nous prive. C'est d'une bonne gymnastique mentale. D'ailleurs, tel qui ne bronche pas devant une plaque de chocolat, faiblit à l'idée d'une fraîche orange parée encore d'une petite feuille à sa queue. J'avoue que je suis de ces derniers. Une orange. Mais pas n'importe quelle orange. J'écris ces lignes au mois de février. C'est le moment où, dans les années paisibles, nous savourions les Tunisiennes, élites des orangeraies. Ovales, un peu vultueuses autour du point de suspension, la Tunisienne emplit la bouche d'un suc sans fadeur, d'une acidité adoucie, largement sucrée. Intacte, son écorce exhale un parfum qui rappelle celui de la fleur d'oranger. De décembre à février, c'est la brève saison de nous gorger de Tunisiennes. Comme font les crus très typés qui, de bouteille à bouteille, marquent une différence, une Tunisienne n'est pas tout à fait identique en saveur à une autre Tunisienne. Et la nuance encourage à ouvrir encore une orange. Et encore une, qui sera peut-être la meilleure de toutes.
Colette, Flore et Pomone, 1943.
Selon un schéma célèbre qu'on a appris à l'école, notamment sur ces posters, vous savez, à œillet, que le maître ou la maîtresse accrochait au tableau, on avait une cartographie de la langue où on expliquait aux enfants que on pouvait ressentir l'acide, l'amer, le salé, le sucré dans différentes zones géographiques de la langue. Et en l'occurrence, l'acidité était située sur les côtés, de façon latérale.
Effectivement, il y a une vérité dans cette carte, dans le sens où l'acidité, on a l'impression qu'elle se passe sur les côtés.
Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur.
Mais qu'est-ce qui se passe sur les côtés? C'est pas la dimension gustative que vous ressentez, mais plutôt la dimension tactile de contraction de la muqueuse et de salivation qui est plutôt située au niveau du côté de la langue. Alors que la dimension gustative est partout à la surface de la langue. Et aujourd'hui, la recherche et la science et la connaissance nous permet de montrer que cette carte des saveurs sur la langue est complètement caduque.
Ah bon ?
En fait, depuis la découverte assez récente, il y a à peu près de 20 ans, des récepteurs gustatifs qui sont à la base de la perception des saveurs, on s'est aperçu que ces récepteurs sont disposés de manière quasiment aléatoire au niveau de la langue, au niveau de cette petite papille gustative, et qu'ils n'ont pas de répartition particulière. Autrement dit, il y a un malentendu entre l'idée que les saveurs sont organisées à différents endroits précis de la langue et l'expression tactile qu'il va y en avoir.
Cette carte de la langue est donc totalement caduque. En clair, il faut l'oublier et arrêter de l'enseigner à nos enfants et notamment dans l'éducation nationale. Est-ce que la science a fait des progrès, justement, en matière de recherche du goût pour nous aider à y voir plus clair?
Alors, la science du goût est vraiment une belle démonstration des progrès récents et actuels de la recherche. Il faut se rendre compte, par exemple, que les récepteurs qui permettent de détecter ces éléments, ces saveurs, la découverte de ces serrures du goût, on les connaît seulement depuis le milieu des années 2000. C'est très récent, ça a moins de 20 ans. Et plus intéressant, sur l'acidité, autant dans les années 2000, on a réussi à trouver et à identifier les récepteurs du sucré, de l'umami, du salé, de l'amer. Le récepteur de l'acidité était encore assez mystérieux et on avait des pistes. Et c'est seulement depuis 2019 que deux équipes américaines, Charles Zucker à Columbia University, Emily Lehman, qui est en Californie, ont identifié enfin ce capteur. Pour vous montrer que la recherche, elle est vraiment en ébullition sur ce domaine-là, qu'elle découvre des nouvelles choses, et qu'on est vraiment sur le seuil de découverte potentiellement de nouvelles saveurs. On découvre des nouveaux capteurs en bouche, des capteurs pour le gras, des capteurs pour le calcium, peut-être encore de nouvelles saveurs, et si on fait cette émission dans 10 ans, je suis sûr qu'il y aura un panel de saveurs qui sera encore plus augmenté.
Acétique, tartrique, lactique, malique, autant d'acides finalement différents. L'acidité est une grande famille. Pour autant, est-il possible de les percevoir en termes de sensations quand on goûte un ingrédient, d'en faire la différence?
Je vous ai réservé une petite expérience de dégustation.
Ah.
Où on va goûter différents types d'acides.
Agréable ou désagréable?
Une expérience agréable où on a utilisé des acides différents, qu'on a dosé à la même concentration, mais où vous allez voir que même à la même concentration, ces acides développent une intensité différente.
D'accord.
Développent une sensation tactile qui va avoir des intensités différentes. Et une salivation aussi qui est différente.
Soyons clairs, vous m'avez servi dans 4 gobelets en carton qui sont devant moi, 4 solutions différentes.
Voilà. On commence par le premier qui est...
Je goûte. J'espère que ça va être sympa. Il se passe pas grand-chose.
C'est exact. Dans ce verre, je vous ai mis juste de l'eau pour pouvoir avoir et mesurer un niveau de base.
Donc on est dans une certaine neutralité.
Exactement. Là, on est à pH 7.
Deuxième verre.
Deuxième verre.
Ah, moi, j'ai une référence très claire. Quelque chose d'un peu... de légèrement aigrelet, qui vient titiller un peu les papilles, mais pas méchamment du tout.
Tout juste aigrelet, on touche au yaourt, à quelque chose qui va dans ce sens-là. Là, vous goûtez un acide lactique.
Ah.
Qui rappelle aussi un petit peu la choucroute, les produits lactofermentés.
C'est ça, c'est-à-dire que l'acidité lactique, on la retrouve dans tous ces produits lactofermentés qui sont très à la mode. Donc ce peut être des cornichons dans un bocal, des légumes fermentés comme de la choucroute.
Passons au verre suivant.
Troisième gobelet. Alors là, moi j'ai la sensation que le curseur de l'acidité grimpe un peu. Et on est dans quelque chose, pour moi, que je qualifierais d'un peu plus électrique. Petite électrocution.
Et en bouche, au niveau tactile, qu'est-ce que vous ressentez?
Mes papilles qui se resserrent un peu sur les côtés.
Exact. On sent que ça tire sur les gencives, ça tire un petit peu sous la langue. Et vous devez sentir aussi une légère salivation qui va arriver à apparaître
la
en réaction
arrive.
Par l'arrière. Et dans ce troisième verre, on a de l'acide citrique, l'acide du citron. Là, on goûte quelque chose qui est plus tactile dans le sens où on a un produit qui agit à la fois sur l'acidité et la dimension un peu astringente. Le côté rugueux qui change en fait les propriétés de lubrification de notre salive et donne ce côté un peu râpeux, rugueux.
Donc en l'occurrence avec cet acide citrique, ce pourrait être pareil quand on lèche finalement un citron ou la pulpe d'un citron. On n'a pas seulement une sensation gustative mais également une perception tactile.
Exactement, qui vient de cette contraction de la muqueuse qui se protège finalement de l'acidité. C'est là que vient justement la beauté de l'acide, c'est que l'acide, elle parle finalement à plusieurs de nos sens. Même si j'ai mis un seul ingrédient dans ce verre, une seule molécule, vous avez bien senti qu'elle parle à plusieurs de vos sens, à votre sens tactile et à votre sens gustatif.
À la maison, on peut tout à fait reproduire cette expérience avec ses enfants.
Exactement, avec un jus de citron, tout à fait, avec un peu de vinaigre si on a envie de comparer, pour mesurer un peu comment à concentration égale, on peut avoir des sensations qui sont rigoureusement différentes. Dernier gobelet.
Et le quatrième?
Qui est le quatrième, en résonance avec le précédent.
Je n'aurai qu'un mot, c'est bon.
Dans ce verre, j'ai mis la même concentration d'acide citrique et j'ai ajouté un peu de sucre.
On a effectivement un effet moins acide et on a une rondeur qui apparaît. Ça rappelle tout l'univers finalement de ce que les Anglais appellent le sweet and sour ou aigre doux, agrodolce pour les Italiens. C'est-à-dire tout cet univers où effectivement l'acidité pactise avec le sucré.
Et où finalement, il y a une bataille qui se livre. Le sucré tout seul est vite saturant, écœurant. L'acide tout seul est agressif et corrosif. Mais quand on les mélange, ça devient bon.
Donc les contraires, finalement, s'unissent.
S'unissent et presque font synergie, font force ensemble.
Il y a un fameux soda, dont on ne citera pas le nom, né à Atlanta aux États-Unis, qui est réputé pour être très sucré. Et pourtant, il a un pH impressionnant qui signale une très forte acidité.
Effectivement, ce fameux soda a un pH qui est un pH de 2-5, qui est extrêmement proche de celui du vinaigre ou du citron. Est-ce que vous seriez capable d'avaler une canette de vinaigre ou de citron? Non, parce que cette acidité est très corrosive, trop acerbe. Et c'est l'art de doser le sucre avec l'acidité pour équilibrer ses saveurs qui nous permet d'absorber un litre de coca sans problème quand on est aux États-Unis.
Vous l'avez nommé, donc on accepte l'acidité. Précisément parce que l'acidité est contrebalancée par une grande quantité de sucre.
Effectivement, l'acidité en tant que telle, dans la nature, on la trouve pas toute seule. Elle est souvent contrebalancée par une autre saveur. Et c'est le cas avec le sucre, avec qui elle forme un tandem, un équilibre vraiment parfait. Le sucre, quand il y en a trop, on met une petite pointe d'acidité pour rééquilibrer ça. Et l'acidité, quand elle est trop forte, remettre du sucre un petit peu dedans, ça nous permet de contrebalancer cette acidité.
Jouer l'acide en cuisine, à condition donc de l'accorder avec d'autres tonalités. Et c'est même possible en dessert avec la rhubarbe. Emmeline Picard, productrice bio à la ferme du Grand Ballot à Jouarre, en Seine-et-Marne, a une passion pour cette plante bâton, pas facile à dompter, en raison de ses intonations stridentes et fruitées. Bonjour.
Bonjour.
François Régis.
Émilie Picard, bienvenue à la ferme du Grand Ballot. Nous sommes exploitants agricoles depuis 6 ans. On a repris l'exploitation de mes beaux-parents et nous nous sommes diversifiés dans la rhubarbe et dans le safran. La rhubarbe qui vient d'Asie et qui a été importée par Marco Polo et qui se plaît très bien à la ferme du Grand Ballot à Jouarre.
On est en plein dans la saison là, vous me la montrez ?
Oui, on y va.
Grand corps de ferme. Et là, de l'autre côté,
voilà,
ah ouais, les champs.
De l'autre côté du corps de ferme, eh bien, on trouve nos champs de rhubarbe.
Ça, c'est quoi ?
Alors voici, là, c'est la frambozone, des grands bâtons qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de long et 1 kilo. Donc, on s'en sert pour faire notre jus, notre fameux pétillant de rhubarbe et nos sirops de rhubarbe. Voilà, donc c'est une variété qui plaît beaucoup. Elle est très douce. Donc là, sur l'exploitation, on a principalement des variétés à bâton rouge. Voilà, c'est signe de douceur et que la rhubarbe n'est pas trop acide, ce qui plaît bien du coup aux pâtissiers. On coupe la feuille parce que la feuille est toxique.
Ouais.
Et l'acidité de la rhubarbe vient de l'acide oxalique.
Comme dans l'oseille.
Voilà. Donc ça fait partie de la famille des polygonacées, la même famille que le sarrasin. Voilà. Donc on arrache la rhubarbe, on la coupe pas. Pour que le pied puisse donner de nouveau, il faut vraiment arracher... la base de la tige de la rhubarbe. Donc on va prendre 4-5 bâtons qui correspondent à peu près à 1 kg.
Et là, vous êtes sur quelle variété ?
Une variété qui s'appelle la Valentine. Et donc, c'est la plus douce des rhubarbes. Donc c'est la reine des rhubarbes. C'est la meilleure des rhubarbes. En fait, la rhubarbe, on peut la cuisiner ou la valoriser de l'apéritif au dessert, en fait. À l'apéritif, on peut faire avec nos sirops de rhubarbe des kirs. Ensuite, on peut faire des sucrés salés avec des petits filets mignons ou des saumons ou du maquereau, faire une petite compotée. Et en dessert, la tarte, le crumble, les compotes, enfin, voilà, ce qui est bien connu, parce qu'en France, on connaît principalement la rhubarbe en mode sucré. Mais on peut la faire également en mode salé. Et au digestif, on a des voisins agriculteurs qui font du gin avec notre rhubarbe. Donc,
ah ouais. donc la rhubarbe dans tous ses états, quoi.
Voilà.
On va les cuisiner ?
Eh bien, en route.
Qu'est-ce qu'on va faire ?
Eh bien, là, je suis en train de rincer les fraises. On va faire une compote rhubarbe fraise. Et on va prendre 3 gros bâtons de rhubarbe qui représentent à peu près 1 kilo. Pour 400 g de fraises. Alors on prend le gros bâton de rhubarbe, on coupe la feuille qui n'est pas comestible, voilà, c'est toxique, il ne faut surtout pas la consommer, et on coupe la base de la rhubarbe. Nous, on prend le parti de pas les éplucher.
Est-ce que je peux en goûter un petit morceau cru de cette Valentine ?
Allez-y. Il y a des enfants qui la mangent crue, trempée dans un petit peu de sucre.
Elle est bonne, hein ?
Bon,
très croquante et juteuse.
Ouais.
Mais c'est vrai que l'acidité est assez modérée.
Oui. C'est surprenant parce qu'il y en a qui disent « Oh, la rhubarbe, bon, j'aime pas. » Et quand on leur fait goûter nos confitures ou nos pétillants, ils disent « Ah, mais en fait, c'est très bon. » Voilà, donc il ne faut pas rester sur des préjugés de rhubarbe verte. Il faut goûter la rhubarbe rouge. Donc on va commencer par faire réduire la rhubarbe pour qu'elle commence à s'attendrir dans la casserole.
Mmh.
Sur le gaz, c'est mieux qu'à l'induction. Alors, un fond d'eau pour pas que ça accroche.
Un fond d'eau, donc pas de matière grasse, hein ?
Non, juste un fond d'eau, 3 cuillères à soupe, on va dire, ou un fond de verre, juste pour pas que la rhubarbe accroche. Par contre, il faut pas oublier de la remuer. On est parti pour 10 minutes. Alors, on sort la balance, on pèse le sucre en attendant, 100 g de sucre. Donc là, on entend déjà ça frétille. Pendant ce temps-là, on va équeuter les fraises. Alors, on les coupe en 4,
ouais,
pour pas les laisser en morceaux, pour que ça fonde un petit peu plus vite.
Et vous allez voir, ça se marie parfaitement à l'acidité de la rhubarbe. Avec la rhubarbe, il faut trouver principalement des fruits sucrés. Donc on peut la mettre avec des prunes, avec de la figue. Il y en a qui font abricots, voilà. Alors, on la mélange.
Ah, on sent que ça ramollit un peu là.
Voilà, ça ramollit, ça commence à me sentir bon. Mmh. L'acidité de la rhubarbe, et on voit qu'en gardant la peau, on garde la couleur rouge.
Mais
ça
ouais.
va nous faire une compote très sympa. Donc on ralentit un petit peu le feu, on rajoute le sucre pour que ça caramélise un petit peu. On va attendre encore 5 minutes et puis on va rajouter tranquillement les fraises. Alors, nous, on ne prend pas le mixeur hein, pour faire une compote. On laisse fondre tranquillement. Et puis, s'il reste des petits bouts, eh ben, c'est encore mieux.
C'est à belle allure. Hein.
Oui,
le rouge fraise, le rose rhubarbe.
Une compote de saison qu'on peut consommer tiède ou froide. Alors, en version froide, on peut la mettre sur un fond de tarte. Une tarte à la fraise, ou une tarte à la rhubarbe, ou une tarte à autre chose, avec un yaourt, ou un fromage blanc, ou en panna cotta, ou en verrine. Et nous, on fait souvent des tiramisu.
Tiramisu à la rhubarbe.
Délice. Et maintenant, le principal, on va chercher la compote, qui sera légèrement tiède.
Et les enfants.
Et les enfants qui viennent pour le goûter. Lionel, tu aimes bien?
Oui.
Surtout avec le biscuit, j'ai l'impression.
Oui.
Et toi, tu t'appelles comment?
Chloé.
Alors?
Je trouve que c'est un peu acide, mais ça va.
Et franchement, c'est délicieux. Hein.
Oui, c'est un régal. C'est tiède, mais c'est tellement frais au niveau des goûts. Fraise, rhubarbe, ça se marie très bien. Bon, bien sûr, la rhubarbe se marie avec plein d'autres fruits. Mais vous pourrez faire des tests chez vous à la maison. En 10 minutes, la recette est faite. Mmh. Et tout le monde se régale.
Donc on a la preuve que les enfants aiment la rhubarbe.
Oui, c'est trop bon.
Saveur savante sur France Inter.
Gabriel, l'épousé, il est aussi question d'acidité de ce que l'on appelle la marinade. Une technique culinaire qui consiste à cuire un aliment au contact d'un milieu acide. Le plus bel exemple peut-être de l'été, ce pourrait être le ceviche, ce plat d'origine péruvienne, qui consiste à plonger du poisson cru dans un jus de citron vert. Et non seulement il change de couleur, mais en plus il change de goût. Est-ce qu'on peut parler d'abord de cuisson?
Alors, du point de vue technique, on peut parler de cuisson si on n'associe pas le mot thermique à la cuisson. La cuisson, c'est quoi? C'est la dénaturation de la structure des protéines avec des moyens qui sont soit physiques, et c'est le cas de la température, soit chimiques, et c'est là qu'intervient l'acidité. Et que fait l'acidité là-dedans? C'est un processus qui va casser des liaisons qui maintiennent les protéines ensemble, qui va déplier les protéines, leur permettre de se détendre et leur permettre potentiellement aussi de faire un gel, un réseau qui s'apparente à ce qu'on appelle la coagulation. Il y a une expérience très simple que peuvent faire les auditeurs, c'est placer typiquement un œuf dans un verre rempli d'acide acétique, rempli de vinaigre, et de voir ce qui se passe au fur et à mesure des jours. Au début, la coquille va fondre et puis petit à petit, le blanc d'œuf qui est translucide va devenir blanc, il va coaguler, il va cuire finalement, petit jour, jour après jour, grâce à cette acidité.
Est-ce comestible ?
C'est plutôt élastique. Pour revenir sur cette coagulation, l'acidité, elle permet de cuire dans le sens où elle rend les protéines plus digestes. Dans le cas du poisson, et c'est important de le dire, l'acidité va aussi être un élément important pour empêcher certaines réactions enzymatiques. Mmh. Donc quand je mets un jus de citron sur un poisson, je l'empêche de dériver vers une odeur de poisson un peu forte et je lui conserve ce côté frais que je veux donner absolument au ceviche.
Merci Gabriel l'épousé, ça me donne bien envie d'aller me préparer un ceviche en faisant mariner par exemple des morceaux de dorade crue dans un leche des tigres. C'est la marinade composée de lait de coco, d'ail et d'oignon rouge, d'une pointe de gingembre frais, de coriandre fraîche et de jus de citron vert, évidemment, pour l'acidité. Vous versez cette marinade sur vos dés de poisson et vous servez aussitôt. Bon appétit. Nos infos pratiques, nos recettes et les podcasts des épisodes de la série sont à retrouver sur franceinter.fr à la page Saveurs Savantes. Saveurs Savantes, une série réalisée par Clément Baudet. Nadia Chougui et Anna Maréchal m'ont aidé à la préparer. Choix des textes littéraires, Stéphane Solier. Prise de son, Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufils, Julien Dumont. Programmation musicale, Djoubaka. Saveurs Savantes, c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter. Samedi prochain, épisode 2,
sucré.
On se retrouve demain dimanche à 11h pour une rediffusion dont on va déguster sur la grenade. Tiens, tiens, un fruit...
acide.
C'est l'été, saliver sur France Inter.